Vous écoutez
RMC.
Soyez les bienvenus dans la matinale week-end RMC. Il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
L'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Anaïs et bonjour à tous. À la une, l'heure du premier bilan des dégâts dans le Grand Est, alors que, Peggy vous le disait, les crues se calment en Moselle et dans le Bas-Rhin. Grande opération en cours en Nouvelle-Calédonie, des centaines de gendarmes et le GIGN tentent de reprendre le contrôle d'une route stratégique aux émeutiers. Et puis, l'ultime journée de Ligue 1 en football. 9 matchs en multiplex ce soir et de l'enjeu que ce soit en haut ou en bas du classement.
À 7h10, on parlera du No Mow May, mouvement né en Angleterre pour demander aux particuliers de ne plus tondre leur pelouse au mois de mai. Objectif, favoriser la biodiversité, ça prend de l'ampleur dans le pays, on en parle dans moins de 10 minutes.
L'eau commence à descendre dans le Grand Est.
Plus aucune alerte rouge ce matin. La Moselle et le Bas-Rhin classés orange par Météo France. La Vézouze et la Nièvre rentrent doucement dans leur lit, mais laissent donc entrevoir les dégâts. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
On fait le point avec vous ce matin. Où est-ce que la situation est la plus compliquée ?
Bien, c'est en Moselle où les habitants se réveillent groggy. Les caves sont inondées, les routes submergées et barrées. À Salzbronn, 130 personnes n'ont pas pu dormir chez elles. Elles ont été évacuées préventivement car une digue risquait de céder. Hier soir, 500 foyers aux alentours de Bouzonville étaient toujours privés d'électricité. La Meurthe-et-Moselle a, elle, eu un peu plus de chance. La préfecture nous apprend ce matin qu'aucune intervention de pompiers n'a été nécessaire. À Lunéville, où le pic est passé, les habitations n'ont pas été touchées, notamment grâce au pompage de l'eau mis en place dès le début de la crue. Dans le Bas-Rhin, c'est la commune de Diemeringen qui était la plus touchée, avec des maisons et des commerces inondés. 59 personnes ont dû être relogées provisoirement. La mairie va demander la reconnaissance de catastrophe naturelle. La préfète du Bas-Rhin a déjà fait savoir qu'elle soutiendrait toutes les communes qui en font la demande.
Merci Johanna Chabas. Et prudence hein, encore aujourd'hui, notamment en Moselle où les pluies d'aujourd'hui pourraient encore causer des inondations. L'État veut reprendre la main en Nouvelle-Calédonie. 600 gendarmes, dont une centaine du GIGN, sont mobilisés pour une grande opération ce matin. Son objectif, regagner la maîtrise de 60 km de route entre Nouméa et l'aéroport international de l'archipel. En attendant, les habitants cherchent toujours le moindre supermarché ouvert, jusqu'à braver le couvre-feu en vigueur. C'est le cas d'Ernest, un militant indépendantiste qu'a rencontré Nicolas Legrand pour RMC.
Il n'y a plus de magasins. Tous les magasins, ils ont tous été brûlés. On a un peu la haine envers les gens qui ont fait ça. Après, c'est vrai que ben, c'est notre cause, en fait. Les produits de première nécessité, et encore, il n'y a pas vraiment grand-chose. Hein. Ben, des pâtes, du riz, ça va peut-être durer peut-être 2 ou 3 jours, c'est tout. Après, il faudra qu'on revienne et chercher d'autres magasins, parce que là, je pense que ça va se vider. Je ne sais pas maintenant, on va faire comment.
Et ce matin, le Haut-Commissariat annonce l'arrivée d'une centaine de conteneurs d'aide alimentaire à Nouméa.
On va suivre ça, on y reviendra à 8h40 avec la maire Renaissance de la ville, Sonia Lagarde. Elle sera notre invitée, l'invitée de l'entretien RMC, 8h40.
À l'étranger, le cabinet de guerre israélien se déchire. L'un de ses membres, Benny Gantz, a menacé de démissionner si un plan pour l'après-guerre à Gaza n'est pas adopté d'ici 3 semaines. Le Premier ministre s'y refuse tant que le Hamas n'est pas détruit, dit-il. Benjamin Netanyahou qui accuse son opposant de vouloir renverser le gouvernement.
RMC, 7h03, plus que 2 mois avant les Jeux Olympiques et la Chambre de commerce de Paris fait un rappel des bonnes manières aux professionnels du tourisme.
Sous la forme d'un petit livret qui leur a été distribué. 32 pages de conseils pour se familiariser avec les différentes cultures. Une leçon de politesse plus ou moins bien accueillie par les restaurateurs de la Porte de Versailles où vont se dérouler certaines épreuves. Reportage RMC, Ameline Lafchin.
Ce guide pratique, Benjamin, restaurateur, l'a un peu feuilleté et dedans, il y a vu quelques suggestions comme...
Être chaleureux, d'être avenant envers les gens.
Des conseils de base un peu infantilisants pour Raphaël.
Clairement, on nous dit, retourne à l'école, quoi.
Mais des efforts, ce serveur est tout de même prêt à en faire, notamment sur l'apprentissage des langues étrangères.
Au moins, les formalités, bonjour, merci, au revoir. Comme ça, bah, les gens se sentent un petit peu comme chez eux.
Pour Karim, gérant d'un restaurant, ce manuel, c'est une sensibilisation de plus pour que les touristes repartent contents.
On devrait réserver le même accueil que vous souhaitez avoir
savoir quand on vous reçoit quelque part.
Mais cet accueil n'est pas toujours à la hauteur des espérances des clients, surtout dans la capitale.
Ils sont tristes, les Parisiens. Même dans les commerces, on n'a pas forcément des bonjours. Ça manque de chaleur, voilà.
Des clichés qui nous collent à la peau, et ce n'est pas ce touriste espagnol qui dira le contraire.
Avec le temps, les Français changent, ils sont plus aimables, mais s'ils étaient plus ouverts aux gens, on arrêterait de penser qu'ils sont trop sérieux ou désagréables.
Mais pour cette Alsacienne, il est trop facile de rejeter la faute sur le personnel.
Quand ils vont être fatigués, quand ils vont faire des journées à rallonge, on peut comprendre que l'accueil soit moins sympa.
Alors pour elle, les touristes aussi doivent faire des efforts et apprendre à être plus patients.
Ameline Lafchin pour RMC. Alors avant la grande messe du sport olympique, très grosse soirée foot sur RMC pour la dernière journée de Ligue 1. 9 matchs en multiplex à 21h. Qui de Metz, qui joue Paris ou du Havre, qui affronte Marseille évitera les barrages? Les Marseillais d'ailleurs décrocheront-ils un ticket européen? Toutes les réponses avec l'équipe de l'After.
Les Brestois, eux, c'est sûr, joueront bien la Coupe d'Europe.
Leur dernier match contre Toulouse n'y changera rien. Brest, assuré d'être quatrième pour la meilleure saison de l'histoire d'un des plus petits budgets de Ligue 1. De quoi rendre particulièrement fiers ses anciennes gloires, Xavier Grimaud.
Oui, quand vous demandez par exemple à Oscar Iwolo, capitaine de Brest de 2009 à 2012, de commenter la saison brestoise, sa réaction est immédiate.
Non mais c'est incroyable, c'est juste exceptionnel. On voit qu'il y a un travail qui a été fourni. Pour les amoureux du football et pour Brest ainsi que la Bretagne, c'est extraordinaire. C'est juste un rêve. Hein.
Vincent Guérin lui a débuté au club époque Brest-Armorique de 84 à 88 et pour l'ancien milieu de terrain.
C'est génial, enfin, moi je suis évidemment premier supporter du stade brestois. C'est ce qui fait la beauté du football, c'est de retrouver des clubs comme ça qu'on n'attend pas du tout et qui se retrouvent en haut de l'affiche et qui durent.
Qui durent jusqu'à décrocher la Coupe d'Europe. Le choc de deux mondes, car pour Yvon Leroux, la légende brestoise du début des années 80, Brest, c'est avant tout
l'humilité, la simplicité, la convivialité. Quand je vais en stade, c'est sentir les frites des merguez, ça fait partie du sport. Je retrouve ici l'ambiance des années 80. On se prend pas la tête, c'est du bonheur.
Un bonheur synonyme de Ligue des Champions. Sans contestation, Brest tient l'exploit de cette saison de Ligue 1 qui s'achève.
Et sans contestation non plus, le titre de champion du monde des lourds en boxe remporté hier soir par Alexandre Usyk, vainqueur du Britannique Tyson Fury sur décision partagée hier soir. L'Ukrainien réunit toutes les ceintures poids lourds, une première en 25 ans.
Et puis, grand danger en rugby pour Montpellier.
Après sa défaite 29 à 22 hier soir contre le Stade Toulousain, le MHR est 13e. Le champion de France 2022 va devoir disputer les barrages pour se maintenir en top 14. Situation catastrophique pour le manager Patrice Colazzo.
Dans 4 semaines, on aura un truc à faire, quoi. Donc on a 4 semaines, sachant qu'il y a le quotidien. Il y a encore 2 matchs de championnat, mais il y a 4 semaines jusqu'à un match avec un enjeu colossal, quoi. On ne joue pas pour un titre, hein. On joue pour une institution, pour qu'elle se maintienne. Donc on a 4 semaines pour essayer d'arrêter par moment de jouer contre soi-même et de se battre soi-même.
Et réaction recueillie au micro RMC de Julien Landry. Et puis dans quelques heures, il y aura un Français dans l'espace. Alors là, c'est pas Major Tom,
non.
C'est Major Sylvain Chiron. Et d'ailleurs, il est même pas astronaute, il est entrepreneur.
Ce savoyard, j'allais dire, on le connaît pas.
Bah non, pas du tout. Savoyard, 52 ans, il fait partie des 6 passagers d'un vol touristique de quelques minutes à peine, dont le prix est bien tenu secret.
Bien fourni.
Oui, parce que là, la firme américaine y tient, on ne donne pas le prix. À bord, il y aura aussi le plus vieil homme de l'histoire à aller dans l'espace. Il s'appelle Ed Wright. C'est un Américain. Évidemment, il a 90 ans.
Oh là là.
Bah oui, bah. Il en a, je pourrais aller dans l'espace.
Ah ouais, mais bon,
il y a. Non, je suis désolé.
Non, mais c'est moins risqué.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est une belle façon de finir.
De partir.
Non, mais c'est
ça. Non,
je rigole.
Non, je rigole. Oh, vers le paradis.
Est-ce que. Oh là là.
C'est horrible.
Est-ce que ça vous fait rêver, vous, d'aller dans l'espace?
Ah non, moi, laissez-moi sur Terre.
Ça fait un peu peur. J'avoue que même si là, c'est très encadré. C'est Blue Origin, c'est le milliardaire Jeff Bezos, il y a des moyens derrière.
Si on vous disait là, demain, allez, partez dans l'espace.
Vous y allez, vous, Alice?
Bah ouais.
Ah ouais,
ouais.
Vous êtes une aventurière.
Ah non, mais je serais totalement flippée, mais bien sûr. Mais il faudrait me payer.
Ah ouais, d'accord, ok.
L'inverse. Bah vous nous dites, au 32-16, pourquoi pas, ou sur l'appli RMC onglet Direct Studio. À suivre, il est 7h09.
À suivre dans la matinale week-end.
Merci beaucoup Victor. Restez bien avec nous sur RMC à 7h40. On va parler de ce guide Do You Speak Tourist que la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France est en train de distribuer aux commerçants franciliens. Guide spécial Jeux Olympiques avec des conseils pour être sympa avec les touristes qui vont venir en masse dans la capitale cet été. On verra ce qu'en pensent les commerçants parisiens avec Thierry Véron, président de la Fédération des associations des commerçants et des artisans de Paris.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous, mais Mélinda d'Avansoulas. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ?
De Taylor Swift, encore et toujours, et de ses fans qui ont servi un petit peu de cobaye malgré eux.
Mais d'abord, notre débat du jour sur cet appel à ne pas tondre sa pelouse au mois de mai pour favoriser la biodiversité. C'est un mouvement qui vient du Royaume-Uni, qui prend l'ampleur dans le pays. De nombreux Français s'y montrent sensibles. Et vous, seriez-vous prêt à y répondre à cet appel ? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes domestiques pour l'environnement ? C'est à vous de nous dire au 32-16 dans un instant.
RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end. Anaïs Castagna.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h30.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Kevin Gasser.
Bonjour Peggy, bonjour Anaïs.
Nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question d'actualité sur notre compte Twitter. Nous vous interrogeons ce matin. Des professionnels recommandent de ne pas tondre sa pelouse au mois de mai pour favoriser le développement de la biodiversité. Êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour l'environnement ?
Oui, c'est la question que l'on vous pose ce matin en plein mois de mai. On connaissait le dry January, pas d'alcool en janvier, ou encore le Movember, se laisser pousser la moustache en novembre pour sensibiliser aux maladies masculines. Il y a le No Mow May, traduction pas de tonte au mois de mai. Que ce soit pour votre carré de pelouse, si vous avez la chance de posséder un jardin, comme 7 Français sur 10, ou même dans les parcs publics. En fait, c'est un mouvement qui a vu le jour en Grande-Bretagne il y a 5 ans, lancé par une ONG et qui gagne du terrain en France. Ne pas tondre votre pelouse serait bon pour l'environnement.
Mais alors concrètement, Kevin, en quoi ce sera un geste écolo ?
Eh bien, ça favoriserait le développement de la biodiversité, c'est-à-dire la pousse de certaines plantes dans lesquelles les pollinisateurs trouvent une nourriture qui leur est vitale, selon l'ONG Plant Life. On le sait, les abeilles sont particulièrement menacées. En Europe, 40% des colonies ont été décimées en moins de 10 ans, ce qui met en danger l'ensemble de la biodiversité et par là même notre sécurité alimentaire, notre agriculture. Et aussi, c'est bon pour les sols, puisque des herbes hautes permettent notamment de réduire la température du sol, ô combien important quand il commence à faire chaud.
Et c'est simple, il suffit de ne rien faire ?
Oui, c'est un geste gratuit, c'est vrai, mais il faut prendre sur soi si on aime bien avoir son jardin bien entretenu. Ça se fait déjà beaucoup dans les espaces publics, au Jardin des Plantes à Paris par exemple. Pas de tonte au printemps, mais si vous n'êtes pas prêt à laisser complètement votre pelouse en jachère, vous pouvez commencer petit. Laisser un carré de pelouse non tondu dans votre jardin peut déjà créer beaucoup de ressources pour les insectes. Autre habitude à perdre, le recours aux herbicides pour vos plantes d'extérieur. En 2019, selon une étude de l'Agence nationale de sécurité alimentaire de l'alimentation, plus d'un Français sur cinq en utilisait au moins deux fois par an.
Alors à vous de nous dire ce matin, êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour l'environnement ?
Eh bien, vous avez répondu non à près de 64% sur notre consultation Twitter.
Et vous, dites-nous, est-ce que vous seriez prêt à arrêter de tondre votre pelouse pour favoriser la biodiversité ? Est-ce que vous faites d'autres gestes à la maison aussi pour l'environnement ? On vous attend au 32-16. Tiens, Barbara est avec nous depuis les Deux-Sèvres. Bonjour Barbara.
Bonjour Barbara.
Bonjour.
Si je vous dis d'arrêter de tondre votre pelouse en mai, qu'est-ce que vous me répondez Barbara ?
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci ? C'est quelque chose... Vous faites déjà peut-être attention à la maison ? Vous le saviez peut-être
oui,
déjà ?
Oui, oui.
Oui ?
Oui. Oui, bah, en fait, on est assez sensibilisé.
Ah, on vous a perdu, Barbara. Allez-y. Ah.
Vous étiez déjà au courant qu'il fallait garder une certaine hauteur, parce que je crois que votre conjoint est jardinier paysagiste, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, à la maison ?
On a mis en place pas mal de choses. Bon, déjà, nous, quand on tond la pelouse, on ne la tond pas à ras, comme on peut voir dans beaucoup de jardins. On la laisse quand même, on va dire, à peu près 10 cm de hauteur.
Ah oui.
Que de toute façon, ce ne soit, soit pas brûlé aux premières chaleurs, parce que ça va vite. Mmh. De toute façon, de trop la tondre est trop court, ça la fragilise aussi.
Oui.
On a un potager où on laisse un petit peu les mauvaises herbes s'installer. Alors,
Vous avez un composteur aussi ?
On a un composteur, tout à fait. On a un poulailler.
Ah oui ?
On a essayé de mettre pas mal de choses en place pour avoir, voilà, une...
Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites ça avec vos enfants, c'est vous les éduquez, en fait, en même temps.
C'est ça. En fait, voilà, nous, avant, on habitait en région parisienne. On a eu l'opportunité, avec mon conjoint, de partir suite à une mutation. Et du coup, notre projet, c'était vraiment d'apprendre aux enfants à consommer différemment, plus local, plus respectueux de l'environnement. Donc en évitant certains produits de supermarché, en évitant en faisant attention à la nature, en faisant attention à notre consommation d'eau, en faisant attention à pas mal de choses.
Et ils ont quel âge, vos enfants ?
Alors, 3 ans et un grand qui a presque 6 ans.
Alors, j'ai pas
on n'a pas entendu parce que ça a coupé pile au moment à chaque fois. Donniez l'âge.
3 ans, c'est ça ?
Des jumelles de 3 ans et un garçon qui doit avoir 7 ans.
Et vous trouvez qu'aujourd'hui, ils ont appris les choses, ils ont pris conscience, ils deviennent responsables, vous sentez ?
Alors, ils font attention. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'arracher les plantes comme ça. Ils savent qu'on fait attention quand on utilise l'eau, qu'on coupe l'eau quand on se douche, on ne prend pas de bain. Ils savent que voilà, il faut faire attention.
Et ils connaissent les légumes, pour le coup, si vous avez un potager.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on dit souvent que il y a même des
études qui montrent que les enfants ne connaissent pas forcément reconnaître une courgette.
Exactement.
Par exemple, avec un concombre. Donc c'est exactement ça. Barbara, vous restez avec nous, restez en ligne avec nous. On est aussi avec Romain. Je voudrais aussi le prendre, qui nous appelle, je crois, des Charentes-Maritimes. Ouais. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour Anaïs. Bonjour Peggy.
Technicien nucléaire, c'est ça?
Oui.
Si je vous dis, vous, d'arrêter de tondre la pelouse ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez me dire ?
Moi, je préférais qu'il s'occupe de la sécurité et puis de mon pouvoir d'achat.
Oui, mais c'est pas incompatible, Romain.
Oui, mais bon, il y a des limites aussi. On devrait s'occuper de plus de choses essentielles. Je dis pas que... J'ai tondu hier, justement, parce qu'il faisait beau, la météo avait dit de la pluie, donc j'en ai profité pour couper.
Bah, vous n'êtes pas le seul, il y a Stéphane sur l'appli Direct Studio qui nous dit, pareil, j'ai tondu hier.
Oui, mais parce que vous ne le saviez pas forcément, vous n'aviez pas forcément entendu cet appel.
Non, je l'ai appris là, je ne savais même pas que ça venait du Royaume-Uni, c'est vous qui me l'apprenez.
Bon, voilà. Maintenant que vous le savez, vous ne vous dites pas, bon, je vais faire peut-être attention à tondre un peu moins ras, parce qu'il y a vraiment un intérêt pour la nature, pour favoriser la biodiversité.
J'ai des arbustes, j'ai vu que hier ça butinait bien sur mes... J'ai deux arbustes bien fleuris devant, ça bourdonne à mort. Bon, malheureusement, j'ai rasé toutes les pâquerettes. J'ai laissé un petit parterre de, je sais pas moi, peut-être 5 mètres carrés sur mes 2000 mètres carrés. Je trouve que ça suffit. Et
comme donc ça, vous avez quand même laissé un petit coin, parce que c'est ce qu'il disait Kevin Gasser tout à l'heure.
Oui, voilà, j'ai quand même pas mal de fleurs. Et puis moi, j'ai un composteur, je fais mes légumes. Et si vous voulez, mon terrain, c'est plein de trèfles, c'est plein de chiens dents. Et quand je vais mettre ça au compost, moi j'en ai marre d'avoir les pantoufles trempées. En plus, c'est tout boueux avec le temps. Le mois de mai, ok, peut-être que quand c'était quand on n'allumait pas le chauffage au mois de mai, moi je suis d'accord. Mais vu le temps qu'on a en ce moment, un gazon bien tondu, ça fait propre.
Oui, d'accord. Mais vous n'êtes pas non plus totalement hostile, mais pour vous, voilà, il y a quand même un critère esthétique. C'est vrai que pour certains, avoir un jardin bien tondu, bien propre, c'est important. Merci.
Pour moi, chacun fait ce qu'il veut.
Écoutez,
ça mérite d'être clair.
Écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va appeler les auditeurs qui nous écoutent à réagir. Merci beaucoup à Barbara qui a donc appelé pour réagir, témoigner, qui nous a raconté que elle savait qu'il fallait donc faire attention à ne pas tondre sa pelouse au mois de mai. C'est pas une surprise. Elles sont conjoints et jardiniers, paysagistes. Ils font vraiment attention. C'est un travail en famille. C'est vraiment très intéressant. C'est passionnant. Moi, j'avoue que je le découvre. Je ne le savais pas qu'il fallait respecter comme ça, voilà, des périodes. Vous nous dites. Si vous en avez déjà entendu parler, on vous attend ce matin au 32-16. Vous nous en parlez également sur l'appli Direct Studio. Il est 7h20 et vous êtes sur RMC.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC, 7h21.
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Mélinda d'Avansoulas.
Bonjour Mélinda.
Bonjour Anaïs, bonjour Peggy.
Ce fut difficile de passer à côté la semaine passée. Taylor Swift était en concert en France et plus de 180 000 spectateurs se sont pressés à la Défense Arena, des fans qui ont été aussi un petit peu les cobayes du futur dispositif de vidéosurveillance des JO cet été.
Et oui, pendant que vous vous trémoussiez sur Shake It Off, les caméras placées dans la Défense Arena ont enregistré votre moindre déhanché et vos pleurs sur All Too Well. Non, je plaisante. La série de concerts de Taylor Swift a bien servi a testé plusieurs dispositifs de sécurité qui seront mis en place durant les Jeux de Paris, notamment la très controversée vidéosurveillance algorithmique, VSA pour les intimes, mais en dehors de la salle de spectacle. Ce sont en fait les stations de métro et RER à proximité donnant accès à la salle de concert qui ont été équipées d'une centaine de caméras de surveillance et autorisé à filmer les usagers, évidemment. Des panneaux aux entrées des stations indiquaient que les quais étaient sous surveillance pour ne surprendre personne.
Mais alors concrètement, Mélida, qu'est-ce que les caméras ont surveillé, les fans en délire ?
Ah bah ça, elles auraient pu. Hein. C'était surtout
vous, peut-être.
Alors, moi, non. C'était surtout un test avec foule massive pour éprouver justement le système baptisé VSA. Des caméras dont les images sont analysées en direct par l'intelligence artificielle. L'objectif était en fait de détecter quatre types d'accidents. Les mouvements de foule en zone à risque, on voit le genre. Une densité anormalement élevée, ça on comprend aussi. L'intrusion en zone interdite ou sensible et éventuellement savoir gérer la présence d'un bagage abandonné. C'est la surdensité qui est surtout apparue plus que les mouvements de foule, figurez-vous. Cela a permis de fluidifier les foules en les orientant bien mieux, explique la RATP. En revanche, pour les objets abandonnés, le test n'a pas été très probant. La VSA a déjà été testée dans d'autres salles de concert à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Évidemment aussi dans des précédents concerts à la Défense, lors du match de Ligue 1 PSG-OL au Parc des Princes ou encore actuellement au Festival de Cannes. Ce sera aussi le cas à Roland-Garros ou encore à Vivatech, deux événements qui débutent la semaine à venir. Les caméras VSA continuent néanmoins de faire un petit peu polémique. Le ministère de l'Intérieur a tenu à rassurer, ça ne sert pas à faire de la reconnaissance faciale, mais de la détection d'incidents. En tout cas, la SNCF et la RATP entendent bien implanter 300 caméras chacune en Ile-de-France durant les Jeux.
Merci beaucoup, Mélinda. Tiens, Taylor Swift, évidemment, pour vous réveiller de bon matin. Taylor Swift qui a cartonné, hein, vous le savez, Peggy, avec ses concerts en France, hein, 4 concerts à guichet fermé. Mais, de nombreux fans se plaignent désormais d'être malades du Covid-19. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes partagent leurs symptômes, leurs tests positifs. Point commun, donc ils sont tous allés à son concert, à un de ses concerts. C'est pas la première fois que ça arrive. Déjà lors de la tournée américaine de la chanteuse, un concert organisé à Los Angeles s'était transformé en cluster géant. Pour l'heure, sa tournée se poursuit. On verra si ses concerts en Allemagne et en Suède ont le même effet. Allez, c'est l'heure de se marrer tout de suite avec Vincent Cerussi.
RMC, la matinale week-end. Cerussi n'a pas tout compris.
Vincent Cerussi qui fait hurler de rire, vous le savez, toute l'équipe d'Estelle Midi du lundi au vendredi sur RMC. Et cette semaine, ce qui l'a inspiré, ce sont ces Français qui se font de moins en moins à manger.
Il n'y a plus que de cuisine traditionnelle, maintenant c'est Uber Eats traditionnel. En France, t'as une coupure de Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe? Et bien plus personne ne peut bouffer. Voilà, c'est dramatique. L'autre soir, Daniel m'a invité à dîner. Il m'a dit, on fait ça à la Bonne Franquette. Je lui ai dit, bon, ça va être sympa. Et bien la Bonne Franquette, c'était le resto en bas de chez lui. Voilà. Je plaisante évidemment. Il m'a jamais invité à dîner. Enfin bon.
Vous cuisinez, vous, Vincent?
Un petit peu, mais c'est compliqué la cuisine, Estelle. Pour moi, ça porte beaucoup à confusion. Un jour, je suivais une recette qui disait faites revenir le thon. Du coup, j'ai rappelé mon ex. Tu vois, tu peux te tromper. On peut se tromper. Non, mais même Sarko et Balkany, à la base, c'était juste une recette de cuisine. Une fois blanchi, saisir le blé et le flamber. Ils se sont juste trompés, c'est tout. On est tous nuls en cuisine, faut se l'avouer. Même Dieu. Et page 312 dans la Bible, il explique comment changer l'eau en vin. Ben, on l'a jamais vraiment vu faire. Hein. Non, ça m'arrive de cuisiner. Ça m'arrive quand je reçois une femme chez moi. Voilà. Une fois par an, quoi. Cette année, je lui ai fait un petit plat italien. Ouais, elle était sous le charme. Elle m'a dit, oh, mais d'où ça vient, cette petite recette? Je lui ai dit un petit village du sud de la Sicile qui s'appelle Sodexo. Ça passe à chaque fois.
À propos de plats préparés, il y a McCain qui va investir plus de 350 millions d'euros en France.
Mais quelle bonne nouvelle. Mais bien sûr, on nous bassine avec la crypto et l'IA alors que le secteur d'avenir, c'est la patate. Estelle, c'est la patate. Nous, les Français, on veut plus de McKinsey, on veut McCain. On est des tuches. On veut se réveiller le matin et dire... Des frites. Voilà, ça, c'est une belle promesse pour la France.
Bah tiens, on en profite, hein. Vous voulez vous réconcilier avec la cuisine, à apprendre à faire un bon poulet du dimanche avec des frites. Rendez-vous à 9h10 dans le beurre et l'argent du beurre avec Perico Légas. Dans un instant, la météo suivie du point sur l'info. Nous sommes le dimanche 19 mai. Bon réveil à tous.
Vous êtes sur RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Martin Bourdin, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Anis, bonjour à tous. Des centaines de gendarmes mobilisés pour reprendre un axe stratégique en Nouvelle-Calédonie et pendant ce temps-là, des habitants qui se barricadent. Reportage à Nouméa dans un instant. Les élections européennes, c'est dans seulement 3 semaines. On connaît officiellement toutes les listes. Il n'y en a jamais eu autant et pourtant, difficile pour les candidats de se faire entendre. Et puis les JO, c'est dans 69 jours. Mais je vous propose un avant-goût de ces Jeux Olympiques à la fin de ce journal.
D'abord, le gouvernement lance les grandes manœuvres pour débloquer la Nouvelle-Calédonie.
Une opération militaire d'ampleur. Plus de 600 gendarmes mobilisés pour dégager la route entre la ville capitale Nouméa et l'aéroport. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin hier. Ce matin, le co-commissariat en Nouvelle-Calédonie évoque une nuit plus calme que les précédentes. Depuis le début du mouvement de contestation de la réforme constitutionnelle qui vise à modifier le collège électoral en Nouvelle-Calédonie, 230 émeutiers ont été interpellés. Mais sur place, les habitants continuent de se protéger comme ils peuvent en se barricadant chez eux. Reportage du correspondant de RMC à Nouméa, Nicolas Legrand.
Une grande porte de fer bloque l'accès de ce quartier résidentiel de Nouméa. Derrière, des hommes et des femmes qui protègent leur maison à l'image de Tony, un père de famille calédonien.
Tout le monde a très peur qu'entre deux insultes racistes, on va venir brûler vos maisons, on va foutre l'économie à terre, dégager de là, sale blanc.
Ok, SUV noir, 4 personnes à l'intérieur, non cagoulées.
Des vigiles, des drones pour observer le barrage des émeutiers à 100 mètres de là, quelques cailloux pour se défendre et surtout des barricades de fortune.
C'est genre des frigos, des planches pour éviter de se faire déborder. On a disposé un peu des pierres pour éviter les voitures béliers.
Depuis lundi, Tony, qui était enfant pendant les événements de 1984, est en état de sidération.
Du jour au lendemain, on se retrouve comme ça dans une situation de guerre civile. Les gens, ils montent sur vous pour vous tuer, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Où elle est passée, la Calédonie, quoi.
Tony nous assure qu'il n'y a pas d'armes sur son barrage, mais à chaque nuit de garde, il craint pour sa vie.
On ne sait jamais s'il n'y a pas un tireur en face qui est planqué. On ne sait jamais si une voiture ne va pas débouler sur notre barrage pour nous dégommer. C'est la psychose, quoi.
En Nouvelle-Calédonie, l'État estime que 130 000 armes à feu sont en circulation pour seulement 270 000 habitants.
Ce matin, les autorités calédoniennes indiquent que les écoles de la province du Sud resteront fermées la semaine prochaine. Et puis, notez ce rendez-vous dans un peu plus d'une heure. Maintenant, à 8h40, la maire de Nouméa sera l'invitée d'RMC. La vigilance rouge levée en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Les niveaux des rivières Niers et Vézouze sont en train de baisser. Les pluies importantes de vendredi ont entraîné une crue exceptionnelle, notamment dans le secteur de Lunéville. Les deux départements, la Moselle reste en vigilance orange pour des crues. Le Bas-Rhin également. Des orages sont désormais prévus aujourd'hui, notamment dans l'est de la France. Gérald Darmanin en déplacement à Rouen. Demain, le ministre de l'Intérieur ira décorer le policier qui a abattu l'auteur de l'incendie de la synagogue vendredi matin. Ce contexte et ces actualités parfois lourdes nous feraient presque oublier les élections européennes, alors que le scrutin se tient dans seulement 3 semaines. Les listes officielles sont d'ailleurs désormais connues depuis la publication hier d'un arrêté au journal officiel. 37 listes, 2997 candidats, un record. Et pourtant, Cyprien Pézril, aucun de ces candidats, même les plus médiatiques, n'arrive à vraiment attirer l'attention.
Les candidats ont beau quadriller le territoire ce week-end, Valérie Ayé à Strasbourg, Raphaël Glucksmann à Montpellier ou encore Manon Aubry à Bordeaux, difficile pour eux de se faire entendre. On sent bien que l'attention est sur autre chose, reconnaît un proche de la candidate macroniste. Entre la situation en Nouvelle-Calédonie et les attaques en métropole, les questions de sécurité écrasent tout. On doit trouver des angles européens dans cette actualité nationale, explique le stratège d'un des principaux candidats. Autre solution, impliquer des personnalités. Marine Le Pen aujourd'hui à Madrid, 2 meetings la semaine prochaine pour Jean-Luc Mélenchon et un débat Jordan Bardella-Gabriel Attal jeudi à la télévision. Alors est-ce que ce sera efficace pour attirer l'attention ? Une candidate relativise. De toute façon, la plupart des électeurs ne se décideront que dans les dernières heures de campagne.
Une première dans la bande de Gaza. Après des jours de blocage, 300 palettes de matériel humanitaire ont été acheminées dans l'enclave palestinienne par la mer grâce à une jetée artificielle construite par les États-Unis. Marion Gauthier.
Dès vendredi, les premiers bateaux ont été déchargés. 10 camions de denrées alimentaires transportés dans un entrepôt du Programme Alimentaire Mondial. Du riz, des pâtes, des biscuits énergisants, détaille un officiel des Nations Unies qui précise « Nous espérons commencer à distribuer aujourd'hui dimanche ». La difficulté, c'est la logistique. Organiser des distributions dans les zones qui en ont le plus besoin. L'entrepôt est situé au centre de la bande de Gaza. Tous les civils n'y ont pas accès et les routes sont dangereuses. Au nord et au sud, il y a des combats, des points de passage bloqués. Nous ne distribuons pas autant et aussi régulièrement que nous le voudrions, souffle-t-on au Programme Alimentaire Mondial. Plusieurs organisations humanitaires rappellent qu'aucun ponton flottant ne remplacera les routes terrestres plus efficaces et plus rapides.
De son côté, le Hamas explique qu'aucune voie d'acheminement de l'aide ne constitue une alternative aux routes sous supervision israélienne. Gaza, où de violents combats ont à nouveau opposé les troupes israéliennes au Hamas hier à Jabalia dans le nord et à Rafah dans le sud. L'armée israélienne a annoncé avoir rapatrié la dépouille d'un nouvel otage retrouvé mort à Gaza, un homme de 53 ans.
7h35, bientôt l'heure du dénouement en Ligue 1.
Et oui, c'est pour ce soir, 34e et dernière journée du championnat de France de foot. 10 matchs à suivre en multiplex sur RMC dès 21h avec un enjeu principal. La course à l'Europe, Marseille doit s'imposer au Havre pour espérer une place en Coupe d'Europe la saison prochaine et compter sur la défaite de Lens face à Montpellier ou de Lyon face à Strasbourg. En rugby, Montpellier va devoir passer par un barrage pour sauver sa place en top 14. Le MHR a perdu hier contre Toulouse et restera avant-dernier du championnat de France, 2 ans seulement après leur titre de champion de France.
Après avoir conquis les États-Unis, Victor Wembanyama était de retour chez lui hier.
À Nanterre, là où tout a commencé pour le prodige du basket français, là où il a été formé. Il a échangé quelques paniers avec des jeunes de la ville et s'est ensuite évidemment confié sur l'événement de son été, les Jeux Olympiques à Paris, sélectionné avec les Bleus. Il réfute l'idée d'être la star de l'équipe de France cet été.
Ça m'inspire de la patience et je viens pour apprendre de ceux qui sont certains des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Et j'ai aucun doute que les responsabilités sur le terrain seront réalistes. Je sais qu'on veut utiliser toutes nos armes et que mes coéquipiers seront prêts à me donner autant de responsabilités que nécessaire. Mais je ne viens pas pour être le patron de ceux qui ont 5, 6, 7 campagnes dans les jambes.
Les Jeux Olympiques, tiens justement, on en aura un petit avant-goût. À partir d'aujourd'hui, à Abu Dhabi, début des championnats du monde de judo. Sans Teddy Riner, certes, mais avec une bonne partie des judokas français qu'on retrouvera cet été sur les tatamis parisiens. Lucas Meredze et Amandine Bouchard, par exemple, dès aujourd'hui, l'occasion de s'étalonner donc à 69 jours de la cérémonie d'ouverture. Morgane Maury.
En regardant les portraits des champions du monde et olympiques dans le dojo de l'INSEP, Amandine Bouchard ne peut pas s'empêcher de glisser.
Forcément, c'est une obsession parce que moi aussi, hein, j'aimerais bien avoir ma tête là-bas avec les collègues.
Quadruple médaille mondiale, elle n'a pas encore ce grand titre planétaire. Ce mondial s'annonce plus ouvert sans sa grande rivale japonaise. La parisienne est plus décontractée. Elle a choisi sa cible.
Mon obsession, c'est d'être championne olympique avant tout.
Avec 7 membres du top 8 présents à Abu Dhabi dans sa catégorie, le mondial de Luca Meredze ressemblera au JO.
C'est difficile de dire que les mondiaux on prend comme un entraînement parce que ça reste un championnat. C'est un championnat où j'ai pas de médaille. Pas se mettre une pression supplémentaire. L'objectif c'est vraiment les jeux pour moi.
Amandine Bouchard.
Et puis si je suis championne du monde, bah très bien, c'est bonus, hein. Je prends.
Une médaille voire un titre ce dimanche serait une rampe de lancement idéale pour les JO.
Et puis après presque un an de silence depuis la fin de sa tournée Civilization Tour, Orelsan est de retour. Alors, un non pas en chanson, mais en image au cinéma. Ah. Le rappeur normand prépare un film, c'est ce que nous révèle le site figurant.com qui recherche des figurants pour ce long métrage. Un film inspiré par la culture japonaise entre fiction et réalité.
Oui, il est fan de manga.
Exactement.
Fan, ça veut dire monsieur en japonais.
Exactement. Ça a bien retenu les paroles de ses chansons. Un film entre fiction
aussi,
et réalité.
J'aime beaucoup Relsan.
Ouais. Qui racontera les peurs de l'artiste liées à la parentalité, à la paternité. Voilà. Ce film, une partie du film a d'ailleurs déjà été tournée au Japon.
Et bien on va suivre ça. Merci beaucoup Martin Bourdin. On vous retrouve à 8h30 et le prochain journal à 8h avec Victor Pourchet. Il est 7h38.
Dans la matinale week-end.
Vous restez bien avec nous à 8h10. On va parler de cette recommandation de ne pas tondre sa pelouse au mois de mai. On en a déjà parlé ce matin. L'objectif, vous le savez, c'est de favoriser la biodiversité. Pourquoi ? Quel intérêt exactement ? On sera avec Alexandre Barraud, écotoxicologue chargé de recherche au sein de l'ONG Polynis, pour nous aider à tout comprendre. Il sera en plateau avec nous.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Alfred Orange. De quoi parle-t-on ce matin ?
On va parler de Roland-Garros, ce tournoi parisien qui s'annonce cette année plus ouvert que jamais.
À tout à l'heure, Alfred. Et dans 2 minutes, Do You Speak Tourist, le guide que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France distribue aux commerçants parisiens à l'approche des Jeux Olympiques avec des conseils pour se montrer accueillants, enthousiastes. Qu'est-ce qu'ils en disent, nos commerçants? Eh bien, réponse avec Thierry Véron, président de la Fédération des associations des commerçants et des artisans de Paris. Il est avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Bon dimanche à l'écoute d'RMC, il est 7h41.
RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Thierry Véron, président de la Fédération des associations des commerçants et artisans de Paris.
Pour parler de ce guide des bonnes manières adressé aux commerçants parisiens à l'approche des Jeux Olympiques, un guide qui s'appelle Do You Speak Tourist et qui est publié chaque année, il faut bien le rappeler, par l'agence d'attractivité Choose Paris Région et par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Mais une édition spéciale JO vient de paraître cette semaine. Bonjour Thierry Véron. Bonjour. Est-ce que vous le relayez, ce guide?
Oui, bien sûr. Et en plus, c'est un guide qui est pas nouveau. Cette année, c'est une spécialité pour les JO. On a d'ailleurs eu une spécialité l'année dernière avec la Coupe du Monde de rugby. C'est un guide qui est un petit peu une bible de base pour le commerçant qui peut avoir ça sur son comptoir et qui rappelle certains principes par type de pays. Effectivement, si on a nos voisins anglais, allemands, italiens ou espagnols, on connaît un petit peu leurs coutumes. Mais quand on va voir des touristes japonais ou chinois, quand vous avez un chinois qui arrive et que vous lui dites « ni hao », tout de suite, il va se sentir un petit peu reconnu. Et c'est quelque chose qui est important. Et c'est à travers ça aussi que
des clés pour savoir parler aux touristes.
Exactement. C'est des clés de base, hein, je veux dire. On demande pas aux commerçants d'apprendre la langue, mais c'est simplement, notamment, juste dire bonjour dans une langue.
J'allais y venir, parce qu'il faudrait peut-être demander aux commerçants français, parisiens, d'apprendre l'anglais. Enfin, je sais pas si...
Déjà, oui, c'est pas mal. C'est pour ça que je vais pas insister sur le...
Non, parce qu'il y a ce cliché du commerçant, on l'a tous en tête, hein, Peggy, français, parisien, qui est non seulement pas sympa, mais qui en plus veut absolument parler français. On l'a vu, la scène dans Emily in Paris. Oui. C'est qu'un cliché ou c'est réellement le cas ?
Alors ça, bien sûr, je pense qu'en fait c'est un cliché qui est en train de bouger quand même, parce que de plus en plus les commerçants s'adaptent, ils en entendent de plus en plus parler qu'il y a ce cliché, donc ils essayent de l'améliorer. Mmh. Et on le voit d'ailleurs quand on voit les rencontrer, on voit bien qu'ils ont envie de faire un effort. Mmh. Et de plus en plus, ce qui se passe, c'est que là pour les JO, il y a 2 ou 3 mois, on avait quand même un sentiment de pessimiste en disant ouais, on sait pas comment ça va se passer, on sait rien, il va y avoir des voies de circulation qui vont fermer,
on va y revenir. Okay. D'abord sur ce guide, restons un peu sur ce guide. Parmi les conseils adressé aux commerçants parisiens. Soyez bienveillants et attentifs. Sachez guider et rassurer. Maîtrisez la démonstration de vos émotions ou encore restez enthousiaste et partagez la joie de ce public présent pour les Jeux. Parce que ça ne va pas de soi, Thierry Véron, quand on est commerçant, d'être accueillant, enthousiaste, serviable. Vous pensez que les commerçants parisiens ont besoin qu'on leur fasse ce petit rappel ?
Pour certains, oui. Ouais. Mais pas tous.
Non, mais parce que certains, on a un reportage ce matin, qui disent « Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, j'ai pas besoin d'être infantilisé. Bah, » Évidemment que ça va de soi, d'être accueillant quand je suis commerçant.
Bah, c'est pour ça que je vous dis, il y en a quelques-uns à qui on peut faire un petit rappel. Mais c'est pas tout le monde. Et c'est pour ça que ce cliché, il est en train de changer. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le cliché, il change. Mm-hmm. En fait, les commerçants commencent à s'apercevoir que, bah, effectivement, en plus, on parle d'eux. Si on parle d'eux en mal, c'est pas très bon. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui font les efforts et s'améliorent de semaine en semaine, d'année en année, d'événement en événement. Mm-hmm. Et ça, c'est une chance aussi pour.
Oui, parce que c'est vrai que les événements s'enchaînent. Oui, vous avez raison de le rappeler.
Exactement. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que on a une chance aussi à Paris, c'est que même malgré tous les problèmes de
mais je voudrais quand même dire qu'on arrive quand même 14e en position, en 14e position d'un classement mondial des villes les plus hospitalières, donc c'est quand même un reproche qui revient assez fréquemment.
Ben, on revient de loin, donc du coup on s'améliore petit à petit, c'est vrai que...
Mais ça ne vous inquiète pas. Des commerçants qui ne se frottent pas toujours les mains à l'approche des Jeux Olympiques, certains redoutent d'être affectés par les restrictions de circulation sur la route et dans les transports en commun. D'ailleurs, ça a déjà commencé depuis vendredi. Les rames de la ligne 12 ne s'arrêtent plus à la station Concorde. 3 axes de circulation majeurs sont aussi fermés à la circulation. Vous comprenez que certains commerçants soient inquiets ?
Oui, tout à fait. Mais je voudrais dire une chose, c'est que il faut que tout le monde joue le jeu aussi. Et tous les commerçants, ou même aussi bien tous les riverains, tous les gens qui se sentent concernés par les JO, il faut qu'ils fassent un effort d'aller s'inscrire sur le site, notamment anticiper les Jeux. .gouv.fr. Pourquoi ? Parce qu'en s'inscrivant dessus, on reçoit après des alertes la veille des fermetures. Moi, je peux vous dire, je suis inscrit, je peux vous montrer sur mon téléphone. J'ai reçu une alerte la veille des fermetures de voies, notamment sur, par exemple, pour ne pas citer, sur la place de la Concorde, l'axe est fermé en nord-sud. J'ai reçu une alerte la veille en disant attention, à partir de demain, cet axe est fermé. Donc, à partir du moment où on critique en disant qu'on n'a pas d'informations, je pense qu'il faut peut-être faire aussi un peu l'effort d'aller chercher l'information, parce qu'elle est partout. Vous prenez le métro, dans toutes les couloirs de métro, vous entendez les informations. Donc je pense qu'il faut être un peu attentif aussi. il y a 3 ou 4 mois, on était pessimiste parce qu'on disait oui, on sait rien, on n'est pas au courant, etc. Mais parce que c'était tout en train de se mettre en place. Là, maintenant qu'on a tous les éléments, il y a eu un travail extraordinaire de fait par la préfecture de région, avec 5 ateliers qui ont été mis en place pour les 5 zones principales des JO sur Paris. Ça, c'est visible. On peut aller s'inscrire à partir du 12 ou du 13 mai pour avoir le QR code pour se déplacer dans les zones spéciales. Donc on a tous les éléments maintenant pour arriver à avoir des jeux et passer des jeux dans
tout le monde.
Mais par contre, évidemment, il y aura toujours un impact spécial, quoi. Voilà.
Oui. D'ailleurs, sur les retombées économiques attendues, vous tablez sur quoi? Une étude commandée par le CIO et le comité d'organisation des Jeux a fait une première estimation des potentielles retombées des Jeux Olympiques entre 6,7 à 11,1 milliards d'euros envisagés pour Paris et la région entre 2018 et 2034. C'est crédible? Vous êtes optimiste? Vous pensez qu'on va vraiment en profiter? Que ça sera aussi intéressant qu'on nous le dit depuis des années.
Oui, mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que je reviens toujours sur la même chose. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si vous avez des commerçants qui sont toujours pessimistes ou qui ferment leur boutique, évidemment, là, on n'arrivera pas à faire des chiffres importants d'économie. Maintenant, si vous avez des commerçants qui sont plus accueillants, ça marchera. Par contre, effectivement, tout va pas se faire pendant les JO. Il y a quand même une grosse part d'héritage qu'il y aura après les JO. C'est pour ça qu'en fait, sur l'étude, on parle jusqu'à 2034. Ouais. Ça, c'est évident. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se saisir de toutes ces informations. Je suis allé voir le préfet Guillaume, préfet de région, pour lui demander pourquoi 5 arrondissements de Paris n'étaient pas dans l'autorisation dominicale pendant les JO. Il m'a expliqué la raison. On a eu une argumentation ouverte avec tous les acteurs économiques de Paris et la copie a été revue et maintenant tout Paris est ouvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut donner la chance ou la liberté, la possibilité à tous les arrondissements de pouvoir organiser des événements, parce qu'il y a les événements sportifs des JO, mais il y a aussi des événements qui sont extra JO, je dirais, dans d'autres arrondissements. Et c'est ça qu'il faut mettre aussi en valeur, parce que tout le monde doit pouvoir travailler.
Dernière question, Thierry Véron. Sur le recrutement, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie redoute des problèmes de recrutement durant les Jeux. Est-ce que vous aussi?
Alors, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, là, avec la cité universitaire internationale, justement un forum pour essayer d'avoir une bande d'étudiants chercheurs étrangers.
Vous lancez un appel ce matin sur RMC à tous les étudiants qui chercheraient du boulot là pendant les Jeux?
Bah bien sûr, ouais, ouais. Tout à fait. Si recherche.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche exactement? Quel profil?
Fait, ça peut être des serveurs surtout dans l'hôtellerie, la restauration. Mm-hmm. Donc là il y a éventuellement un potentiel d'emploi à trouver. Et on est en train de le mettre en place de toute façon pour les JO, mais après les JO, parce que on entend parler depuis longtemps qu'il y a un manque de recrutement, beaucoup de restaurateurs et hôteliers ont du mal à trouver des salariés, donc faut s'en saisir.
Merci beaucoup Thierry Véron, président donc de la Fédération des associations des commerçants et des artisans parisiens, d'être venu sur RMC ce matin. Il est 7h50.
RMC, la matinale week-end.
Anaïs Castagna.
Slimane, pour vous réveiller ce matin sur RMC, on va en parler dans le bonus avec vous, Peggy, parce qu'il cartonne avec sa tournée mondiale.
Mais d'abord,
racontez-nous.
Et c'est l'heure de retrouver Alfred Orange.
Bonjour Alfred.
Bonjour Anaïs, bonjour Peggy.
Roland Garros qui débute officiellement demain avec le début des qualifications dans ce tournoi qui s'annonce plus ouvert que jamais.
Oui, parce que Rafael Nadal, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil, n'est plus le joueur de tennis qu'il était. L'Espagnol, longtemps blessé, tente désespérément de revenir, handicapé par plusieurs blessures à la hanche et à la cuisse qui l'empêchent depuis plusieurs mois de retrouver son meilleur niveau. À 37 ans, l'ancien ogre de la terre battue enchaîne cette saison les performances sans relief. Forfait à Monte-Carlo en avril, 8e de finaliste à Madrid il y a un mois, puis sèchement éliminé au 2e tour à Rome la semaine dernière. Le Mallorquin laisse depuis planer le doute sur sa présence à Paris. Les médias espagnols assurent qu'il sera là, mais le joueur, lui, n'a rien confirmé.
Et Alfred, d'autres favoris arrivent aussi à Roland-Garros avec peu de certitude.
Oui, à commencer par le tenant du titre, Novak Djokovic, vainqueur à Paris l'année dernière, qui n'a pas encore gagné un tournoi sur terre battue cette année. Le Serbe, toujours numéro 1 mondial, s'est même légèrement blessé la semaine dernière. Il s'est pris une gourde en pleine tête alors qu'il signait des autographes. C'est en fait un spectateur qui, en se penchant, a fait tomber sa gourde dans son sac mal fermé. Une méforme partagée aussi par les numéros 2 et 3 mondiaux, l'Italien Jannik Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui n'arrivent pas à se débarrasser de pépins physiques qui les empêche d'être à 100%.
Et les Françaises et les Français dans tout ça?
Ah bah, cette édition ressemblera surtout à une tournée d'adieu pour Alizé Cornet d'abord, qui jouera là son dernier tournoi. Elle a été invitée par les organisateurs. Pareil pour Richard Gasquet, qui disputera sans doute son dernier Roland-Garros 22 ans après y avoir joué pour la première fois. C'était, tenez-vous bien, en 2002. À 37 ans, il dit sérieusement songer à la fin de sa carrière. Le reste du contingent français cherchera à créer l'exploit dans un tableau masculin où il est aujourd'hui bien difficile de pronostiquer un vainqueur.
Merci Alfred, et racontez-nous, c'est à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end,
le bonus RMC.
Avec vous Peggy, la tournée mondiale de Slimane est déjà un énorme succès.
Et oui, la semaine dernière déjà, il nous a enchanté Slimane, il nous a rendu fiers avec son interprétation de Mon amour pour l'Eurovision. Il a fini 4e du classement. Et il en a profité pour annoncer une tournée mondiale du 23 janvier au 26 février 2025. 8 dates en Europe, en Amérique du Nord, de Londres à New York en passant par Milan. Alors il a été porté par sa prestation à l'Eurovision. Le succès ne s'est pas fait attendre puisque la billetterie a ouvert, écoutez bien, jeudi. Et les concerts prévus à Anvers et Milan était complet en 24 heures. Je ne sais pas si vous imaginez.
Ah ouais.
Et ceux de Barcelone et d'Helsinki en Finlande sont quasiment complets également. Alors le public étranger pourra découvrir les autres tubes de Slimane. D'ailleurs, vous pouvez même revoir la discographie de Slimane puisqu'il y a le best-of Slimane essentiel qui est sorti vendredi dernier, dans lequel on retrouve ses plus gros tubes en solo, mais aussi en duo.
Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus
comme
fort.
Ce titre en duo avec Camille Lelouch, mais aussi évidemment.
Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça tient à rien.
Ces tubes avec Vita. Comme celui-ci, ça va, ça vient. Il y en a plein d'autres. En fait, c'est un best-of de 3 CD. Et en attendant la tournée mondiale, Slimane est en tournée dans toute la France. Prochaine date, ce sera au Zénith de Lille, jeudi prochain.
Voilà, une déclaration d'amour hein, ce matin sur RMC à Slimane.
Nous aussi, on t'aime, Slimane.
Merci, Peggy. Vous restez avec nous dans un instant. La météo suivie du journal.
La matinale week-end.